Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ma santé, mon droit, thème de la campagne que lance l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale de la santé ce dimanche 7 avril. Pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur le droit à la santé de chacun partout dans le monde. L'agence onusienne invite les gouvernements à réaliser des investissements significatifs pour développer les soins de santé primaires, surtout dans un contexte d'inaction, d'injustice et de crise. L'armée congolaise appelée à prendre en considération les alertes de la population sur les mouvements des rebelles des ADF dans le territoire de Beni au Nord Kivu. L'appel est lancé par la société civile de ces territoires à l'issue de la rencontre jeudi entre la société civile de Beni Territoire et des leaders communautaires de la localité de Mavivi. L'invité du journal cet avant-midi s'appelle Kanté Manke. Il est le chef de bureau du HCR à Bunia. Il va parler de l'enquête menée par son agence et ses partenaires qui révèle qu'en Ituri, 83% des personnes installées sur 6 sites des déplacés de Bunia et ses environs souhaitent être réintégrées localement plutôt que de regagner leur localité d'origine. Bonjour à tous. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril, l'Organisation mondiale de la santé lance la campagne dénommée « Ma santé, mon droit » et c'est pour défendre le droit à la santé de chacun partout dans le monde. En cette journée et au-delà, l'OMS appelle les gouvernements à réaliser des investissements significatifs pour développer les soins de santé primaires, surtout dans un contexte d'inaction, d'injustice et de crise. À cette occasion, l'organisation exhorte les pays à investir, à lutter contre la discrimination et l'intolérance et à élargir l'accès équitable à des services de santé de qualité. La campagne comprend des appels à l'action dans les domaines des finances, de l'agriculture, de l'environnement, de la justice, des transports, du travail et des affaires sociales. D'autres détails avec vous, Jacques-Yves Moulima.
Cette campagne, écrit l'OMS dans un communiqué parvenu à Radio Kapi, vise à garantir l'accès universel à des services de santé, à l'éducation et à l'information de qualité, ainsi qu'à l'eau potable, à l'air pur, à une bonne nutrition, à un logement de qualité, à des conditions environnementales décentes et à l'absence de discrimination. L'organisation note que l'inaction et l'injustice sont les principales causes de l'incapacité mondiale à garantir le droit à la santé et les crises actuelles conduisent à des violations particulièrement flagrantes de ce droit. Par ailleurs, écrit l'OMS, chacun mérite d'avoir accès à des services de santé de qualité, opportun et approprié sans être soumis à la discrimination ni à des difficultés financières. Pourtant, en 2021, 4,5 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, n'étaient pas couvertes par les services de santé essentiels, les laissant vulnérables aux maladies et aux catastrophes. Même ceux qui ont accès aux soins en souffrent souvent économiquement, avec environ 2 milliards de personnes confrontées à des difficultés financières en raison des coûts de santé, une situation qui ne fait qu'empirer depuis deux décennies, reconnaît l'organisation. Mais la reconnaissance seule ne suffit pas. C'est pourquoi l'OMS aide les pays à légiférer sur le droit à la santé dans tous les secteurs et à intégrer les droits de l'homme dans les politiques et programmes de santé.
Au Nord Kivu, la société civile du territoire de Beni appelle l'armée à prendre en considération les alertes de la population sur les mouvements des ADF dans la zone. C'est l'une des recommandations issues d'une rencontre jeudi entre cette structure citoyenne et des leaders communautaires de la localité de Mavivi, chef-lieu du groupement des Batangimbao. L'objectif de cette série de rencontres qui vont s'étendre à d'autres milieux est d'analyser la situation socio-sécuritaire et d'identifier d'autres problèmes auxquels la population fait face. Richard Kirim, premier vice-président de la société civile du territoire de Beni, explique au micro des grévistes Salomon.
Ngite a été attaqué, Vemba a été attaqué, Sayo dans la ville de Beni et récemment Mangina a été attaqué. La population s'étonne de cette intensification des incursions ADF alors que la population pense avoir identifié trois villages qui aujourd'hui sont supposés être des bastions des ADF. Les endroits, les positionnements, c'est déjà donné aux autorités militaires. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été fait à terme d'aller attaquer, d'aller démanteler ces positions qui sont en train de servir à ces ADF comme base pour endeuiller la ville comme cette partie du territoire de Beni. La population a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a signalé le mouvement, mais rien n'est fait à terme de démanteler ses positions. On déplore aussi les retards, des fois l'absence des interventions militaires au moment des alertes. Des recommandations étaient que la prise en compte des alertes de la population, l'adaptation de la communication, parce que la population pense que la communication n'est pas à sa place entre les autorités à différents niveaux autour de la guerre.
Et puis en Ituri, ce sont 10 personnes qui ont été tuées et des biens emportés lors de l'incursion hier matin d'un groupe de miliciens de la Codeco dans le village Galaï, secteur des Banyalikilo, dans les territoires de Djougou. D'après des sources locales, parmi les victimes figurent 4 femmes. Ce drame intervient 24 heures après un accrochage entre ces miliciens et ceux de l'autodéfense dans plusieurs entités de la chefferie de Baéma Nord. D'autres détails avec vous, Ezekiel Mouzalia.
C'est aux environs de 5 heures locales qu'un groupe de miliciens de la Codeco du Bon Temple en provenance d'Andissab a surgi dans le village Galaï, dans le secteur de Banyalikilo. Ces miliciens ont tiré des coups de feu dans tous les sens. C'est la débandade totale au sein de la population pris des cours. Des hommes, des femmes, voire des enfants, dans une confusion totale, tentaient de se mettre à l'abri. Certains ont gagné la forêt et d'autres ont pris la direction de Mayalibo, un village voisin. Quelques militaires sur place ont répliqué par des tirs de sommation pour repousser les assaillants. C'est dans cette confusion que toutes les sources sur place évoquent un bilan encore provisoire des 10 civils tués, parmi eux 4 femmes. Information non encore confirmée par des sources officielles, car la fuite d'autres corps continue, notamment vers le village Makalala, où d'autres civils seraient tués, toujours la même nuit par ces assaillants. Signalons que ce meurtre intervient au lendemain d'accrochage entre les groupes armés Codeco et Zaïre dans les villages roulés, dans la chefferie de Baéma Nord. Des notables de cette entité invitent le gouvernement à accélérer le programme de désarmement pour rétablir l'autorité de l'État dans cette zone. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps à Goma au Nord Kivu, les services de sécurité ont mis la main sur plus de 60 semeurs de troubles dans la ville. C'est dans le cadre de l'opération appelée « Zéro délinquant dans la ville » menée conjointement par les services urbains de sécurité. Ces présumés bandits ont été présentés vendredi à la presse par le maire, Denise Lukeso.
Parmi les personnes arrêtées, 18 femmes, 2 sujets rwandais en situation irrégulière, 7 repris de la justice et 2 militaires en divagation interpellés dans les quartiers Katoï, Kasika et Mikeno lors de cette opération. Les 18 femmes appréhendées dans des maisons de tolérance sont qualifiées par les services de sécurité d'agents d'espionnage. Le maire a à cette occasion mis en garde tous ceux qui propagent l'insécurité dans la ville à contre-courant des efforts des autorités. Il a rappelé à la population de collaborer, de dénoncer et de s'est désolidarisé des manipulateurs. Les commissaires supérieurs Capen, Kamand, Faustin demandent à la justice de transférer ces bandits une fois jugés dans des prisons lointaines pour contrer les cas des récidives. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Parlons humanitaire à présent, toujours au Nord Kivu. Les conditions socio-environnementales et sanitaires ne cessent de se détériorer dans différents camps de déplacés dans le territoire de Nyiragongo, exposant ainsi les déplacés à toutes sortes de maladies liées à l'environnement insalubre. C'est la coordination territoriale de la société civile de Nyiragongo qui alerte sur cette dégradation. Elle parle du manque d'eau dans les camps, de l'absence et de l'insuffisance des poubelles et des charges publiques, ainsi que du nombre réduit des latrines. Thierry Gassissiro décrit ces conditions et lance ce plaidoyer aux ONG humanitaires et au gouvernement congolais. Il est au micro de Denise Lukeso.
Les poubelles sont saturées, les toilettes restent insuffisantes par rapport au nombre de déplacés, ainsi que les douches où chaque matin on voit les gens se mettre sur une ligne juste pour avoir accès à la toilette. Les personnes les plus vulnérables, dont les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les enfants, ont vraiment du mal à avoir accès à la toilette étant donné que le nombre de personnes sont élevés par rapport aux toilettes, mais également la quantité d'eau qui arrive dans différents cas de déplacés reste insuffisante par rapport aux besoins, d'où il y a lieu de craindre à des épidémies, à des maladies hydriques, à des maladies chroniques telles que choléra et autres. Et donc il est important que les organisations non gouvernementales, l'État congolais ainsi que ses partenaires voient comment ils peuvent augmenter le nombre de toilettes et des douches, mais également aménager et des endroits où les déplacés peuvent jeter les immondices et les évacuer à temps utile.
L'inspecteur général des finances, Jules Alingué-Tekay, invite les jeunes Congolais à barrer la route à la corruption, au détournement des deniers publics et à la fraude pour sauver la RDC. Jules Alingué-Tekay et son équipe ont échangé avec les jeunes membres des partis politiques et autres associations sociopolitiques et culturelles le vendredi au cours de la 10e journée d'échange citoyen. Thème évoqué, l'impératif de la lutte contre la corruption engagée par le président de la République à travers l'IGF, quel est l'apport de la jeunesse. Profitant de l'occasion, Jules Alingué-Tekay invite le jeune à être des modèles et surtout à faire preuve d'une prise de conscience et à faire la différence. L'inspecteur général des finances, Jules Alingué-Tekay, est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Le pays compte sur vous, son redressement. Soyez des modèles, ne copiez pas aveuglément vos aînés de la classe politique qui ont mis en place un système qui n'a pas servi au pays. Et nous sommes capables de changer la trajectoire de notre pays en termes de développement si nous comprenons qu'il faut que nous puissions tous barrer la route à ces fléaux, la corruption, le détournement des deniers publics et la faute qui, à première vue, apparaissent comme une bénédiction, mais qui, en réalité, est une malédiction pour les acteurs qui sont là-dedans ainsi que pour la communauté dans son ensemble. Je vous invite donc à prendre conscience de cette réalité et à vous préparer demain à affronter la réalité de la gestion publique parce que vous êtes en train de venir pour que vous puissiez donner la chance à notre pays d'aller de l'avant. Et je vous invite à accompagner cette vision du chef de l'État de lutter contre la mauvaise gouvernance, d'implémenter la bonne gouvernance. Je vous invite d'accompagner l'inspection générale des finances dans la patrie financière.
Réagissant au micro de Radio Capi, plusieurs jeunes ont salué cette initiative et manifesté leur intérêt d'accompagner l'inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption. Toujours en économie, le bourgmestre adjoint de la commune d'Oicha, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, met en garde tous ceux qui sont des connivences avec des jeunes appelés Tentera. Selon Jean de Dieu Kibwana, ces jeunes se sont constitués en groupe de voleurs de cacao dans les champs des agriculteurs en complicité avec certains acheteurs de ce produit. Il annonce que des dispositions sont prises pour mettre fin à cette pratique. Jean de Dieu Kibwana est au micro de Guylaine Kassassia.
Le système Tendera, c'est que c'est un nouveau système, faux mouvement. Le groupe des jeunes, ils ont leur tenancier, leur leader ici. Et on envoie ce groupe de jeunes à Bruce pour aller récolter le cacao. Dès qu'ils trouvent des cacao, ils ramènent le cacao à leur patron. Nous décourageons déjà ce système. Nous pensons qu'il y a aussi déjà des systèmes d'alerte que nous avons pour attraper ces malfrats. Celui qui sait qu'il est déjà dans ce système-là, on le décourage. Parce que sinon, bientôt, on va mettre la main sur lui. Et il va subir la peine. Donc, c'est un mauvais système. C'est pourquoi quand nous disons le système cacao collé à la sécurité, c'est tout ça. Système Tendera, cacao et sécurité, ADEF, c'est déjà presque dans le même paquet. Donc, parce que les techniciens sont en train de travailler pour que qu'on sache, qu'on voie, qu'ils sont en train de se mêler dans ces choses.
Depuis plusieurs années déjà, le quai de Moba est inondé par les eaux du lac Tanganyika. Se confiant ce samedi à Radio Okapi, le coordonnateur de la société civile de Moba dénonce la manière dont les activités se déroulent au niveau de ce quai. Léon Taboupessa demande aux autorités de penser à réhabiliter ce quai de Moba, indispensable pour le trafic commercial dans ce coin du pays. Il est au téléphone de Paul Amunanga.
C'est depuis 2021 qu'on a commencé à assister à la montée du niveau des eaux du lac Tanganyika. Ce phénomène continue, mais présentement là, c'est devenu pire, puisque le lac Tanganyika est arrivé là qui n'est jamais arrivé. Nous n'avons plus les quais ni les ports dans le territoire de Moba. Donc la première opération, vous êtes accueillis par les débardeurs. Les débardeurs transportent d'abord au dos avant qu'ils n'arrivent dans la pirogue. La pirogue, c'est là qu'on va les transporter avec leurs biens vers les bateaux. Avant d'entrer dans le bateau, on doit encore vous transporter sur les deux par les débardeurs pour que vous accédiez le bateau. Le territoire de Moba est un territoire frontalier de la Tanzanie, de la Zambie et même de Burundi et de Kalemie. Donc c'est là qu'il y a des échanges d'import et export par rapport aux marchandises, d'autres mouvements commerciaux, des services qui sont présents au niveau du port. Et c'est ce qui fait très mal aux commerçants du fait qu'ils sont en train de taxer eux-mêmes dans des bottes. Et ils n'ont même pas de bureau, leur bureau submergé. Mais vous le voyez qu'ils sont là avec leur bureau ambulant.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a annoncé ce dimanche la mort de 4 soldats dans la bande de Gaza, portant à 604 le nombre de militaires israéliens tués dans le territoire palestinien depuis le 7 octobre. La guerre dévastatrice dans la bande de Gaza entre ce dimanche justement dans son 7e mois. Et c'est aujourd'hui aussi que les négociateurs des États-Unis, d'Égypte, du Qatar, d'Israël et du Hamas se retrouvent au Caire en Égypte pour une énième tentative de parvenir à une trêve associée à une libération d'otages. Le Hamas, qui a confirmé le départ de sa délégation au Caire ce dimanche, a affirmé hier qu'il ne renoncerait pas à ses exigences pour une trêve, dont un cessez-le-feu complet, un retrait israélien de Gaza, un retour des déplacés et un sérieux accord d'échange d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Déclenché le 7 octobre par une attaque sanglante sans précédent du Hamas en Israël, l'offensive israélienne ne connaît aucun répit. Elle a fait 33 137 morts pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien, et provoqué un désastre humanitaire avec la majorité des 2,4 millions d'habitants menacés de famine, d'après l'ONU.
L'invité.
83% des personnes installées sur 6 sites des déplacés de Bounia et ses environs en Ituri préfèrent être réintégrées localement plutôt que de regagner leur localité d'origine où la sécurité n'est pas totalement garantie. C'est le résultat des enquêtes menées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et ses partenaires. Kanté Manke, chef de bureau de cette agence onusienne à Bounia, s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Kanté Manke, bonjour.
Bonjour.
Vous avez procédé à la remise des abris ou si vous voulez logements aux déplacés installés sur différents sites et vous avez commencé le projet en 2023. Quel contexte est né ce projet?
Ituri regorge pas mal de déplacés internes au niveau de la zone, mais avec tout ce qui se passe en ce qui concerne l'assistance qui est en train d'amaigrir au niveau des sites. Donc c'est ainsi, en coordination avec OCHA, avec les autres acteurs, nous avons eu à penser avec les autorités provinciales, comment on peut inverser la situation afin qu'on puisse voir rendre plus ou moins résilients ces déplacés qui se trouvent dans les sites où on a de moins en moins de l'assistance. Avec les différents plaidoyers qui ont eu passé en 2023, on a eu un financement de couvrir 1500 abris qui devraient être faits. On s'est rendu compte que sur les 1500 abris qui devraient être réalisés, il fallait le faire comme c'est un projet pilote au niveau de Bounia et périphérie. Et dans ce sens, il y a eu d'autres acteurs qui se sont joints également, qui ont eu les financements dans le cadre de l'autonomisation de ces 1500 bénéficiaires. C'est ainsi que le PAM a reçu l'assistance pour couvrir au moins une ration de 3 mois. Et OIM devrait s'occuper plus ou moins des activités de hors camp, hors site, pour pouvoir faire des évaluations dans les zones potentielles de retour pour se rassurer quelle est la situation de l'environnement de protection et sécurité dans ces différentes zones. La FAO devrait bénéficier également de l'assistance qui devrait donner à 500 ménages également dans les différents sites qui seront concernés.
Ces personnes ont accepté volontairement d'aller vivre sur ces espaces-là. Encore, vous allez nous dire qui vous a donné ces portions de terre. Comme vous savez, en Ituri, le problème de terre, accès à la terre, est un problème très sensible qui souvent est à la base de plusieurs conflits. Comment vous avez trouvé un compromis, notamment avec les autorités locales, pour trouver cet espace-là pour construire ces logements?
Il y a une évaluation qui a été faite en 2023. C'est ce qui nous a permis de savoir les différentes tendances. Donc, les différentes tendances qu'on a eues au niveau des 6 sites qui se trouvent dans Bounia, périphérie, il s'est avéré qu'on a eu des résultats. Près de 83% ont décidé vraiment l'intégration. Mais dans les évaluations qui ont été faites, il y en a eu un aspect, une rubrique, c'était pour savoir exactement est-ce qu'il y a des gens qui avaient des parcelles. Et ce sont ces résultats qu'on a eu. Et sur la base de ça, nous avons approfondi les analyses pour essayer de voir est-ce que la bonne cohabitation est là, comment ils se sont procurés de ces parcelles. Et les résultats nous ont montré que vraiment il y a un bon environnement protecteur de cohabitation effectivement entre les différents groupes qui ont cherché, qui ont demandé de s'intégrer. Pour des gens qui ont de la parcelle, et il fallait y penser comment sécuriser leur parcelle. Et la province, monsieur le gouverneur, nous a été très utile avec tout son staff. À l'heure où je vous parle, les 658 dont je vous parle pour le premier projet qui va être clôturé à la fin de ce mois, ces gens, tous ceux-ci, ont trouvé de l'espace.
Qu'en est-il des autres personnes qui n'ont pas de parcelle, qui souhaiteraient aussi être réintégrées localement? C'est quoi leur sort?
Ces préoccupations avaient été soumises déjà auprès de la province pour essayer de voir les gens qui n'ont pas de parcelle et qui veulent s'intégrer, quelle est la solution qu'il faut trouver. Mais il ne faut pas qu'on oublie également, sur la liste des 1500 qu'on a, et qu'on a eu enregistrés dans notre base de données, on a plus de 3000 bénéficiaires, 3000 ménages qui ont acheté encore de la parcelle, ce qui démontre vraiment la volonté d'intégration, ce qui démontre également cette volonté d'intégration et de cohabitation des deux populations qui vivent dans la périphérie de Bounia.
Tout à l'heure, vous évoquiez parmi les défis, justement, c'est la fin du projet, le manque de financement. C'est pas de ce côté-là, qu'est-ce que vous prévoyez?
Les questions qu'on conjugue les efforts avec les différents financements du HCR et les financements en provenance des filets sociaux du gouvernement de la Banque mondiale pour voir comment on pourrait atteindre un peu certains besoins de ces populations qui demandent vraiment leur intégration.
Quand t'es manqué, je vous dis merci.
Merci beaucoup, Radio Capi, d'être venu à notre bureau.
L'invité de ce journal, Quand t'es manqué, chef de bureau du HCR Bounia, était avec Jean-Claude Lokidile. Et c'est par ici que prend fin ce journal, la première grande édition de ce matin sur Radio Okapi. Place à présent au journal de sport avec Enoch Matondo.